Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, je pense qu'on va commencer. Bonjour, merci aux héros et héroïnes, ou plutôt aux héroïnes et aux héros qui ont bravé la grève et le froid pour venir. J'ai voulu conclure cette série de cours par une présentation, une leçon, comme on dit ici, qui soit, au-delà de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent sur les mécanismes de symbiose, puis sur les mécanismes de pathogénicité, qui soit un petit peu sur la façon dont finalement l'hôte, dans sa réponse à des micro-organismes, que ce soit des micro-organismes non pathogènes, on va voir le premier exemple avec la problématique des maladies inflammatoires de l'intestin, ou que ce soit des micro-organismes pathogènes, et ce sera le deuxième exemple, c'est-à-dire, disons, le sepsis grave ou le choc septique, je reviendrai bien entendu sur ces définitions, comment le système immunitaire qui est chargé finalement à la fois de reconnaître, de détruire les micro-organismes, mais aussi de mettre en place des mécanismes de régulation qui permettent que cette réponse se fasse dans de bonnes conditions, y compris de mener à sa réparation, comment ces mécanismes peuvent éventuellement, à un moment ou à un autre, faire des erreurs. J'ai mis « erreur » entre guillemets, bien entendu, hein, ce n'est pas du tout dans le sens où il y a une véritable faute, c'est dans le sens où les choses peuvent, à un moment ou à un autre, en matière de régulation en particulier, déraper et prendre une dynamique un petit peu opposée à ce qu'on attendrait. Et ensuite, c'est un peu un effet boule de neige quand des processus de signalisation déraillent dans un organisme. Malheureusement, les choses vont très souvent, peu à peu, s'orienter de plus en plus dans le mauvais sens. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai mis ça entre guillemets. Donc les erreurs du système immunitaire inné en présence des microbes, maladies inflammatoires, on se centrera sur l'intestin dans la mesure où je vous ai déjà pas mal introduit toute cette problématique du commensalisme et de la symbiose et où je pense que ce sera plus simple de dégager quelque chose d'un petit peu cohérent et puis ensuite le sepsis grave et le choc septique. Alors, je vous remets ici, on m'a toujours dit que la redondance était la base de l'enseignement, donc je vous remets une diapositive que vous avez vue plusieurs fois, mais je crois qu'elle est encore peut-être plus justifiée cette fois-ci que les fois précédentes. On a beaucoup dit depuis le début qu'on vivait en termes de réponse immunitaire un paradoxe permanent, probablement difficile à traiter au jour le jour, qui a probablement forgé notre système immunitaire, en particulier l'immunité innée, qui est celui d'être capable à la fois de gérer une flore commensale très importante, en particulier dans notre tube digestif, mais aussi sur la peau et dans d'autres cavités, et de transformer, de filtrer la signalisation qui sort de cette interface entre les microbes et les cellules en des signaux moléculaires, bien entendu, et cellulaires qui vont orienter vers une tolérance de ces flores microbiennes. Ça, c'est toute la problématique que j'avais essayé de développer dans mon premier cours. Et puis dans les cours suivants, en particulier ceux qui ont été en prise directe avec la compréhension des pathogènes et de la pathogénicité, j'ai essayé de vous expliquer comment ces mécanismes, finalement, de tolérance étaient rompus et comment les micro-organismes eux-mêmes pouvaient venir adhérer, envahir, détruire les surfaces auxquelles ils sont amenés à être mis en face et entraîner une réponse immunitaire du fait d'un certain nombre de facteurs que j'avais développés qui va à la fois, bien entendu, contribuer à éradiquer le micro-organisme mais aussi, malheureusement, souvent à créer des dommages collatéraux et en particulier à entraîner des destructions non négligeables des tissus. Alors, comme il est montré sur cette diapositive, cette réponse inflammatoire en présence de micro-organismes pathogènes, elle mène donc, par le biais de cette défense innée, à une inflammation, à une destruction des microbes et des tissus. Et cette réponse, elle va pouvoir éventuellement être à la fois, ou pas éventuellement, elle va être à la fois amplifiée par un certain nombre de récepteurs. Donc, on peut imaginer la présence d'une boucle d'amplification, de manière à ce que cette réponse innée puisse atteindre qualitativement et quantitativement une qualité qui va permettre en fait à la réponse adaptative, c'est-à-dire la réponse immunologique spécifique, de se mettre en place et à nous protéger contre la prochaine agression par un micro-organisme similaire. Seulement, comme on le verra, ou comme en tout cas on essaiera de le disséquer un petit peu, en restant souvent malheureusement un peu descriptif parce que c'est difficile de donner une image globale de tout ça, ces mécanismes, ces boucles à la fois d'amplification et de régulation peuvent à certains moments, du fait de leur complexité, encore une fois, déraper et amener à une perte de contrôle de la situation et bien entendu à ces situations dont on a parlé de sepsis grave, c'est-à-dire d'infection gravissime en fait, hein, pour simplifier la situation, et éventuellement de choc septique, c'est-à-dire d'un risque non négligeable de décès du patient qui se trouve dans cette situation. Alors on peut immédiatement, intuitivement, se dire que autant dans les mécanismes qui régulent le commensalisme que dans les mécanismes qui régulent l'ensemble de cette boucle de la réponse innée adaptative peuvent s'insinuer à un moment ou à un autre des éléments, des choses, des signaux qui vont amener justement à ces erreurs, entre guillemets, et à ces dérapages. Alors lorsqu'on est en présence, par exemple, d'un problème dans la signalisation liée à la tolérance des commensaux, va bien entendu se développer une réponse inflammatoire et donc une destruction non justifiée des tissus concernés. Et dans cette situation-là, je n'y reviens pas, j'en ai parlé, on va se retrouver dans des situations parfois absolument dramatiques. Alors la question, bien entendu, j'en ai déjà parlé souvent, c'est où se situe la frontière ? Et surtout, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails de nouveau parce que ça a déjà été beaucoup fait, beaucoup discuté, comment se fait-il qu'avec les mêmes molécules de perception des micro-organismes, les toll-like récepteurs ou les node-like récepteurs, on en a déjà beaucoup parlé, en tout cas pour les bactéries, comment se fait-il qu'avec les mêmes mécanismes de perception et de signalisation, on puisse gérer deux situations qui, a priori, sont quand même relativement différentes. Mais ça, je ne vais pas vous refaire les présentations précédentes. Alors, tout de même, un petit rappel rapide, y compris en particulier pour des personnes qui n'auraient pas été là antérieurement. L'immunité innée, vous avez déjà vu cette diapositive, c'est un phénomène global qui comporte plusieurs étapes, qui sont bien sûr la perception d'un micro-organisme agressif, en particulier d'une bactérie. On va rester dans le monde bactérien ici. Cette perception des bactéries se fait à partir de la reconnaissance par l'hôte, par nous-mêmes, en particulier de motifs qu'on appelle les PAMPS, qui sont ces éléments structuraux des bactéries qui sont propres au monde procaryote, qui ne sont pas présents dans le monde eucaryote. On nuancera ça un tout petit peu tout à l'heure. Là, c'est l'idée générale. Ces PAMPS, donc ces motifs microbiens, on en a déjà parlé, le LPS, les lipoprotéines, la flagelline, le peptidoglycane, sont reconnus par ce qu'on appelle des pathogen recognition receptors, c'est-à-dire des récepteurs sur les cellules qui vont reconnaître ces PAMPS. Et cette reconnaissance, qu'elle soit d'ailleurs sur l'épithélium lui-même ou sur les cellules immunitaires associées à l'épithélium, en particulier les macrophages et les cellules dendritiques, va amener, suite à leur recrutement, à ces signaux de danger et à l'inflammation et à la mort microbienne, qui est bien sûr l'objectif primaire de cette réponse innée, avant bien entendu la gestion de cette transition vers la réponse adaptative dont on a déjà parlé. Alors, je vous ai déjà montré X fois qu'en fait nos cellules, pour essayer de prendre quelque chose d'un petit peu global, étaient marquées par la capacité de reconnaître à la fois le monde microbien éventuellement agressif extérieur. C'est toute la problématique des toll-like récepteurs qui vont en règle générale s'associer par pair en dimères avec un certain degré de combinatoire pour reconnaître ces motifs microbiens, ces PAMPS, les lipoprotéines, le lipopolysaccharide pour TLR4, la flagelline pour TLR5 et ainsi de suite. Un certain nombre de toll-like récepteurs comme 3, 7, 8 et 9 sont plutôt localisés à l'intérieur d'endosomes, c'est-à-dire en fait, quelque part, c'est de l'extérieur de la cellule internalisée. Donc ils continuent à reconnaître des choses, mais des choses qui ont été internalisées, et en particulier du RNA double brun, du RNA simple brun, ce qui vous dit tout de suite, bien entendu, que ces éléments peuvent être impliqués dans la reconnaissance de virus, mais aussi le CpG-DNA, c'est-à-dire l'ADN non méthylé pour TLR9, qui est l'ADN, la caractéristique de l'ADN des bactéries, des procaryotes. Donc il y a un système qui est globalement plutôt reconnaissance extracellulaire et un système qui est plutôt reconnaissance intracellulaire, soit quand les microbes sont intracellulaires, soit lorsque des éléments du microbe sont introduits dans la cellule. Et ça, c'est toute la problématique des molécules NOD, NOD1, NOD2 en particulier, et la reconnaissance du peptidoglycane ou d'éléments du peptidoglycane, les muropeptides, qui sont le motif dans ce cas-là reconnu. Donc on a toute une batterie d'éléments de veille, de surveillance et de réponse qui va le plus souvent s'effectuer, bien entendu, par l'activation de cette fameuse voie NF-kappa-B dont on a parlé, d'autres voies aussi, bien entendu, celle des MAP kinases, le résultat étant l'activation des gènes pro-inflammatoires par ces facteurs de transcription NF-kappa-B qui transloquent dans le noyau. Alors, avec ces éléments de rappel en tête, on peut commencer à essayer, dans cet exercice sur, disons, chercher l'erreur, qu'est-ce qui peut amener à des dysfonctionnements. Donc la première partie dont je voudrais traiter dans cette leçon, c'est la question, et je vais le faire de façon, je vous le dis tout de suite, relativement simple, parce que c'est une littérature qui est extrêmement compliquée et qui nécessite véritablement de revenir à des choses relativement simples, sous réserve de ne pas faire de sursimplification, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer quand même de vous ramener sur, essayer de comprendre la logique de certains éléments. Donc vous savez qu'on a tous un intestin, que cet intestin est bourré de bactéries, qu'au jour le jour, on en a déjà parlé, tout fonctionne très bien, on tolère cette flore microbienne, mais que dans certaines situations, on va se trouver en présence de maladies où se déclenche une inflammation. Et l'inflammation, elle peut se situer sur une grosse partie du côlon. C'est le cas en particulier de la rectocolite hémorragique, depuis ici l'angle gauche jusqu'au rectum. Elle peut se situer aussi, dans le cas de la maladie de Crohn, et c'est essentiellement de la maladie de Crohn dont je vous parlerai, sur des sites relativement variables au niveau du côlon, mais plutôt localisés dans la partie distale du sigmoïde, sur le colon transverse et ici dans le cécum, et puis aussi beaucoup sur l'intestin grêle, en particulier dans la région iléale, ici, éventuellement à distance au niveau de la peau. Il y a une espèce de côté systémique dans ces maladies qui nous montre en fait qu'on est dans un problème de gestion un peu globale du problème des microbes qui nous colonisent et pas uniquement dans un problème spécifiquement intestinal. Alors, au fil des années, beaucoup de théories ont été faites sur l'origine de ces maladies, en particulier de la maladie de Crohn, qui est une pathologie qui est, comme peut-être certains d'entre vous le savent, tout à fait désagréable et qui peut conduire à des complications majeures. J'y reviendrai. Donc, on a beaucoup pensé pendant beaucoup d'années, et peut-être y a-t-il encore un certain degré de vérité là-dedans, que ce type de maladie pouvait être éventuellement lié à un agent infectieux. Et au fil des années, des études ont montré qu'éventuellement, il y avait un lien entre la survenue de ces maladies et la vaccination contre la rougeole. Il est bien évident que tout ça est tombé à l'eau. On a essayé de rapporter ça à l'hystéria monocytogénèse. Il n'y a pas véritablement de confirmation. Corynebacterium, des corynebactéries, pas vraiment de confirmation. Peut-être quelque chose avec une mycobactérie, c'est très proche des corynébactéries, qui s'appelle Mycobacterium pseudotuberculosis, qui en fait donne, on pense assez clairement chez le bétail, donc chez les bovins en particulier, une pathologie très proche granulomateuse de la maladie de Crohn. Donc on en trouve effectivement assez régulièrement, dans certaines études on en trouve même 100% chez les patients au cours des maladies de Crohn. Donc on est resté assez longtemps sur l'hypothèse d'un agent infectieux causant ce type de réaction inflammatoire. En fait, progressivement, et c'est pourquoi j'ai mis cette diapositive ici, on pense qu'il s'agit plus, encore une fois, d'un problème dans la gestion de la flore commensale plus qu'un problème d'agression directe par un micro-organisme pathogène. Alors, je vous avais mis, une fois, je pense, cette diapositive dans une de mes présentations pour essayer de donner une impression un petit peu globale de ce que représente cet équilibre entre notre épithélium intestinal et la flore bactérienne en termes, encore une fois, de signalisation, de filtrage de signaux et d'induction de la tolérance. Et je vous avais dit que la présence de ces bactéries était en permanence sentie par l'épithélium ou éventuellement explorées, perçues par des cellules dendritiques qui envoyaient des extensions entre les cellules épithéliales pour aller échantillonner ces micro-organismes, et que l'ensemble de cette combinatoire de cellules et de molécules de signalisation amenait en fait à la production locale d'un certain nombre de molécules, le TSLP, le TGF-bêta, l'IL-10, prostaglandine 2, un certain nombre de métabolites, qui en fait orientent le système immunitaire muqueux local vers ce processus tolérogène en inactivant les macrophages et en empêchant la maturation des cellules dendritiques en présence de micro-organismes. Et que la conjonction de ces phénomènes, pour simplifier les choses, amenait à la sélection de populations de lymphocytes dans la lamina propria, c'est-à-dire dans le tissu de la muqueuse intestinale, qui était assez largement dominée par ce qu'on appelle des lymphocytes T-régulateurs, aux dépens des lymphocytes TH1, tels qu'on les appelle classiquement, qui sont plutôt des lymphocytes qu'on observe dans des réactions immunes de nature pro-inflammatoire. Donc ça, c'est une partie de cet équilibre amenant à la tolérance. Mais participe aussi à la tolérance et gérée par ce contexte de cellules la production d'un certain nombre de médiateurs comme BAF, comme APRIL, comme SLP1, qui sont en fait des facteurs de maturation des lymphocytes B qui vont permettre aux lymphocytes B dans ces régions des ganglions associés aux muqueuses de maturer et de recirculer pour revenir se localiser dans ces zones et sécréter ces fameuses IGA sécrétoires dimériques qui vont transloquer à travers l'épithélium et aller se positionner dans le mucus comme autant de molécules qui vont permettre cette exclusion immune et participer donc à cette maintien d'un état en fait d'équilibre où les microbes ne peuvent pas accéder de façon simple à l'épithélium, sauf dans les zones où c'est nécessaire pour induire cette réponse immunitaire. Donc il est clair, quand on a cette espèce de paysage devant nous, qu'on peut se dire qu'à la limite, toute anomalie de fonctionnement à un endroit ou à un autre de cette boucle va amener à un dérapage de ces processus de régulation et à une réponse de type inflammatoire qui va, encore une fois, au passage, détruire l'épithélium et la muqueuse. Et bien entendu, vient tout de suite à l'esprit l'idée que peut-être des facteurs génétiques chez l'hôte pourraient amener une plus grande fragilité à ce type de pathologie. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je reviens une seconde à la diapositive précédente, je parlais de cette, un peu, j'ai tendance un peu à appeler ça le no bacteria land, c'est-à-dire cette zone à la surface de l'épithélium où les bactéries sont véritablement globalement maintenues à distance par ces IGA sécrétoires. Elles sont aussi maintenues à distance par l'expression par des cellules de l'épithélium en particulier, de ce qu'on appelle des molécules antimicrobiennes et en particulier des peptides antimicrobiens. Alors ces peptides antimicrobiens, j'en ai parlé rapidement une fois ou deux précédemment, ce sont des peptides qui sont produits dans l'intestin grêle très largement par ces cellules qu'on appelle des cellules de Paneth qui sont à la base de la crypte, c'est-à-dire à l'endroit où la crypte intestinale est régénérée, et qui vont être, dans ces cellules sous forme de globules, sécrétées dans la lumière et nettoyées, si je puis dire, tout micro-organisme qui aurait des velléités de s'avancer trop près de l'épithélium, et en particulier trop près de cette zone de l'épithélium où sont les cellules souches, c'est-à-dire les souches qui sont essentielles à la régénération. Donc il faut absolument sanctuariser, si l'on peut dire, cette zone, de manière à ce qu'on ne soit pas en permanence soumis à des stress microbiens. Donc la composition de ces cellules de Paneth et le contenu de ces cellules de Paneth est maintenant bien connu, avec en particulier ces alpha-défensines dont je vous ai déjà parlé, comme HD5, HD5 par exemple, qui représentent, vous le voyez en rouge, une grosse partie des protéines sécrétées par ces cellules de Paneth, en plus de phospholipase, d'une enzyme, le lysozyme, qui je pense que vous en avez déjà parlé, hydrolyse, clive le peptidoglycane des bactéries. Donc c'est une espèce de cocktail finalement que ces cellules sécrètent dans la lumière intestinale de façon à maintenir à distance, sous contrôle, ces micro-organismes. Donc c'est le premier petit paragraphe. En plus du rôle joué par les IGA, je viens de vous en parler, dans la régulation de la composition du microbiote résident et plus que de la composition, de la localisation du microbiote résident, il apparaît que les molécules effectrices de la réponse innée sont aussi impliquées, et ce sont ces peptides antimicrobiens qui semblent vraiment, sur la base de données expérimentales maintenant, jouer un rôle essentiel dans cette régulation qualitative et quantitative du microbiote, parce qu'ils sont actifs contre un large spectre de bactéries et d'autres micro-organismes. Ils sont actifs sur des virus enveloppés, ils sont actifs sur des parasites, sur des champignons. Et en plus, les données expérimentales, là, c'est plus simplement des fantasmes de gens qui voudraient vraiment que ces peptides antimicrobiens jouent un rôle important. Les données issues de modèles murins indiquent que les alpha-défensines, celles qui sont produites par les cellules de Paneth, jouent un rôle pivot dans la défense contre les infections alimentaires et hydriques. Et on a des publications, comme la publication de Carol Wilson en 1999, montrant que si on casse chez la souris le gène producteur de la matrilisine, qui est une enzyme qui clive et mature les alpha-défensines pour les permettre qu'elles soient sécrétées sous forme active, les animaux sont beaucoup plus sensibles à des infections intestinales, en particulier par Salmonella. Et il y a eu aussi un très joli travail du groupe de Bevins, Saltzman étant le premier auteur, en 2003, dans Nature, montrant que si on fait une souris transgénique exprimant la alpha-défensine HD5 humaine, les souris sont beaucoup plus résistantes en fait, à salmonelle, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça met un peu le doigt sur certains aspects de cette barrière d'espèce dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Alors, non seulement on a ces alpha-défensines qui sont produites par les cellules de Paneth au fond de la crypte intestinale, mais toutes les cellules épithéliales intestinales, en fait, qu'il s'agisse des cellules des villosités de l'intestin grêle ou des cellules du côlon ou du rectum, produisent aussi leurs propres défensines, en particulier les bêta-défensines 1, 2, 3, et puis une molécule qu'on appelle la catélicidine ou LL37. Et ça représente, quand on regarde le génome murin ou le génome humain, des dizaines et des dizaines de gènes. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ces systèmes ont été sélectionnés, maintenus, amplifiés par possibilité de duplication génique ou autre, parce que certains sont vraiment très, très homologues, pour amener à la présence d'un arsenal de molécules qui est tout à fait, encore une fois, efficace dans cette étape de contrôle des micro-organismes. Alors juste pour vous donner un peu une idée comment ces choses-là probablement fonctionnent, et je vous ai mis ici un résultat d'un travail du labo en fait, qui a été publié cette année, pour d'autres raisons, mais simplement l'image montre ici en bleu, c'est la surface de l'épithélium intestinal, dans un modèle qui est en fait un modèle d'intestin humain transplanté chez une souris sans système immunitaire, de manière à pouvoir vraiment établir ce qui se passe dans l'épithélium humain lui-même au plan expérimental. Et vous avez ici le mucus intestinal et les bactéries qui sont en fait imprintées, comme on dit en franglais, qui sont vraiment imprimées dans cette couche de mucus jusqu'à une certaine distance de l'épithélium intestinal. Et puis marqué en marron ici par immunomarquage, vous avez en fait un peptide intestinal qui est un peptide antimicrobien qui s'appelle HBD3. Et vous voyez qu'il est vraiment en position stratégique, si l'on peut dire, pour permettre à l'épithélium de ne pas être en permanence sous un stress trop intime avec ces bactéries. On a l'impression d'ailleurs que ces peptides sont vraiment imprimés dans la couche la plus basse de ce mucus. Donc on s'intéresse nous-mêmes d'ailleurs de plus en plus à essayer vraiment de comprendre ce qui se passe à la surface de cette zone et comment en particulier certaines bactéries peuvent les manipuler. Alors je vous avais dit aussi, et finalement je réitère un peu des choses que je vous ai dit dans des cours précédents et depuis le début de celui-ci, on a vraiment cette image assez spectaculaire de micro-organismes par la méthode Fish qui qui sont en fait sous forme quasiment de biofilms à la surface du mucus, à distance, ou à une certaine distance en tout cas, des cellules épithéliales. Et j'étais rentré un peu plus dans les détails par rapport à la diapositive, une des diapositives précédentes, dans l'explication finalement, ou la tentative d'explication de cette espèce d'équilibre tout à fait, je pense, précis et vital pour nous, qui est que d'un côté, les micro-organismes qui vivent justement sous ces formes de biofilms multibactériens émettent en permanence des molécules qui vont être échantillonnées par les cellules épithéliales intestinales, en particulier par les canaux de l'apex cellulaire, et qui vont amener à une signalisation intracellulaire, encore une fois filtrée pour induire toute cette tolérance dont on a parlé. Et en réponse, finalement, la production permanente de molécules de défense, en particulier ces peptides antimicrobiens, qui maintiennent, sous forme d'un gradient qui va en décroissant dans le mucus, cette espèce de front, finalement, au niveau duquel s'est établi un équilibre, quelque part. Et cet équilibre, il est l'essence de cette non-manifestation de la présence des micro-organismes dans notre intestin. Donc j'espère que tout ça commence à être quelque chose qui vous est relativement familier. Alors là, on est dans un autre monde, on est dans celui de la pathologie, et en particulier de la maladie de Crohn. Donc vous pouvez simplement vous focaliser sur la partie gauche de la diapositive pour voir que la muqueuse intestinale, ça c'est une pièce chirurgicale d'un patient atteint de Crohn, je pense qu'on est là dans l'iléon, et vous voyez plusieurs choses, deux en particulier. Vous voyez que le tissu est vraiment rouge, inflammatoire, hémorragique, ce qui traduit bien entendu l'inflammation intestinale qui est en cours. Et vous voyez aussi que la muqueuse elle-même est extrêmement épaisse. Une muqueuse normale ferait probablement le quart de l'épaisseur que vous voyez ici. Et ce que vous voyez en histologie, c'est, avec, vous reconnaissez les villosités intestinales, on en a parlé plusieurs fois, vous voyez que ce qu'on appelle la lamina propria, c'est-à-dire le situs de soutien de ces villosités est rempli de cellules inflammatoires. Les cryptes intestinales sont complètement désorganisées. Le fait qu'on les voit comme ça en coupe, ça veut dire qu'elles partent un petit peu dans toutes les directions. C'est traduit très généralement ce qu'on appelle le branchement des cryptes, c'est-à-dire le fait que la régulation de la restitution de l'épithélium est très altérée. Et puis vous voyez surtout ici ce qu'on appelle un granulome, c'est-à-dire un abcès organisé, qui est caractéristique dans la maladie de Crohn parce qu'il est transmural, c'est-à-dire qu'il touche véritablement, il part en gros de la crypte, vous voyez, du niveau de la crypte, et il descend, en l'occurrence, si je le vous montre là, il remonte vers la musculeuse, hein, le muscle de l'intestin et la séreuse ici. Donc ça, c'est très caractéristique, cet granulome de la crypte et transmural de la lésion qui se met en place dans le courant de la maladie de Crohn. Alors, je vous ai dit dans cette petite introduction sur ce type de pathologie intestinale, en particulier sur le Crohn, qu'on avait beaucoup pensé pendant des années, qu'on était en présence de pathogènes spécifiques. Il semble de plus en plus, peut-être avec quelques exceptions qu'il faudrait rediscuter, mais je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails, qu'on soit plutôt en présence d'une pathologie liée à une gestion finalement erronée de la présence de ce microbiote intestinal. Et cette évidence, elle est apparue après beaucoup de réflexions par des données qui ne sont pas des données expérimentales, qui sont vraiment des données chez l'homme, en particulier par deux papiers qui ont été publiés côte à côte ou dos à dos plutôt dans Nature en août 2001, je crois que c'était. L'un par un groupe parisien, le premier auteur étant Jean-Pierre Hugo, qui est professeur de gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, et l'autre par un groupe aux États-Unis, le groupe de Gabriel Núñez, le premier auteur étant Ogura, et montrant en fait, par clonage positionnel, que alors, la maladie de Crohn, disons plus précisément, les formes familiales de maladie de Crohn, et en particulier les formes familiales graves de maladie de Crohn. Grave, ça veut dire donnant lieu à une chirurgie, donnant lieu à des résections intestinales, que ces formes graves de maladie de Crohn intestinale étaient associées à des polymorphismes, voire à des mutations, puisque certaines de ces mutations sont évidentes sur la lecture de la séquence, dans une molécule dont on a déjà parlé, bien entendu, qu'à l'époque on appelait CARD15 et qui maintenant s'appelle NOD2, qui est donc ce récepteur intracellulaire à ce muropeptide particulier qui est le muramyl dipeptide. Donc cette molécule, elle a ses séquences riches en leucine, qui sont en fait le senseur de ce muropeptide, une séquence de binding des nucléotides, de liaison des nucléotides, et deux séquences CARD du côté N-terminal, qui sont des séquences d'association et d'activation des caspases. Alors, ce qui a été tout à fait spectaculaire, c'est de voir qu'environ 30 variants différents génétiques ont été identifiés tout au long du gène NOD2 chez les patients atteints de maladie de Crohn, mais en particulier une mutation faux sens qui est probablement la plus fréquemment retrouvée, qui est celle-ci, quasiment à l'extrémité C-terminale de la molécule, et un certain nombre d'autres mutations dans ces séquences riches en leucine ou dans cette séquence NART ou Nucleotide Binding Sites. Malheureusement, il y a une terminologie est très riche et nous met parfois un petit peu en confusion. Donc tout ça, ça a été montré rapidement par ce même groupe qui en fait était le groupe du CEF à Saint-Louis sous la direction de Gilles Thomas, dans American Journal of Human Genetics en 2002, donc un an après. On avait non seulement l'identification de ces mutations ou polymorphismes dans la molécule NOD2, mais en plus l'identification de la nature précise de ces polymorphismes. Et on va revenir tout de suite après sur le fait qu'en fait, pour l'essentiel, ce sont simplement des polymorphismes, mais vraiment des mutations qui empêchent la fonction de cette molécule NOD2. Donc je reviens rapidement simplement sur le fait qu'on parle ici des formes les plus graves, après tout des plus importantes sur le plan médical de maladie de Crohn, c'est-à-dire celles qui surviennent au niveau iléal et celles qui vont se terminer, si je puis dire, en striction intestinale et en fistule, ce qui va amener à un moment ou à un autre des chirurgies parfois assez délabrantes. Alors, ça c'est le premier point, j'en profite toujours pour digresser un petit peu sur d'autres aspects. Mais pour vous dire, et on en a déjà parlé rapidement à une occasion ou à une autre, que cette molécule NOD2, elle n'est qu'un élément parmi une grande famille maintenant qu'on appelle les NOD-like récepteurs, qui correspond à des molécules qui sont toutes marquées par des séquences riches en leucine, qui sont toutes marquées par la capacité de lier des nucléotides, mais qui peuvent varier du côté N ou C-terminal, certaines ayant un domaine CARD, dont on a déjà parlé, mais d'autres ayant des domaines comme ces domaines BIR ou ces domaines PIRINE. C'est un peu un jeu de construction où ces molécules ont recombiné des domaines différents, mais globalement, l'idée qui émerge est la même, à savoir que ces molécules sont des molécules de perception du danger à l'intérieur des cellules, que ce danger soit infectieux, en particulier le muropeptide pour NOD2, ou qu'il soit métabolique, l'acide urique, l'augmentation de l'ATP, la silice, tout un tas de signaux, la fuite de potassium, des choses qui vont être perçues comme un élément de danger et positionner ces molécules comme des senseurs de ce danger et comme des inducteurs de la réaction inflammatoire. En particulier, on a parlé de l'inflammasome qui va mettre en branle cette réponse rapide dont on a besoin pour gérer ce type de situation. Alors, on comprend bien que si ces molécules marchent trop bien, c'est ce qu'on voit par exemple dans un syndrome qui s'appelle le syndrome de Blow, où par une mutation dans le domaine de liaison des nucléotides, la molécule est constitutivement active, c'est-à-dire qu'elle marche sans même avoir besoin d'un agoniste. Et ces individus, malheureusement, ont de l'inflammation en permanence dans l'intestin, dans les yeux, dans les articulations, et leur espérance de vie est relativement faible. Ou bien ces molécules vont perdre leur fonction, et c'est là le paradoxe sur lequel je voudrais rentrer rapidement, c'est que malgré cela, on va non seulement faire de l'inflammation, mais on va faire plus d'inflammation. Ce qui veut dire qu'en réalité, ces éléments sont des éléments qui sont essentiel dans la perception du danger. C'est-à-dire que si on ne perçoit pas le danger suffisamment à temps, on va se retrouver dans une situation où d'autres systèmes vont prendre les choses en charge, mais elles vont le prendre trop tard, alors que le danger, en particulier infectieux, s'est accumulé, et les réponses probablement vont être beaucoup plus violentes et moins bien régulées. Alors, toute cette famille de molécules dont j'ai parlé antérieurement, tout est en train de s'éclairer à l'heure actuelle grâce à un certain nombre de pathologies, effectivement, que moi je connaissais quand j'ai fait mes études de médecine comme étant des pathologies inflammatoires primaires, la fièvre périodique, le syndrome de Meckel-Welts. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, ce sont des syndromes où, finalement, une inflammation apparaît dans les yeux, sur la peau, dans les articulations, sans qu'on sache très bien pour quelles raisons, peut durer, peut récidiver, bien entendu, assez régulièrement en fonction de la gravité et peut donner lieu à des complications dramatiques comme l'amylose, par exemple, qui va amener à des insuffisances rénales, des insuffisances cardiaques. Donc on a maintenant toute une pathologie qu'on appelait dysimmunitaire à l'époque, qui représente en fait non pas une pathologie auto-immune au sens de la réponse immunologique spécifique, mais vraiment une pathologie du manque de contrôle de la réponse innée et en particulier de cette réaction inflammatoire gérée par ces molécules node-like récepteurs amenant à l'inflammasome et en particulier à la libération d'IL-1-bêta pro-inflammatoire. Alors, note 2, je vous l'avais dit, reconnaît le muramyl dipeptide, cette molécule avec ce qu'on appelle murnac, glucnac, et la L-alanine et la D-glutamine. Hein, c'est une molécule relativement simple. Et si on prend une isoforme de ces acides aminés, on perd complètement la reconnaissance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'ultra spécifique du muramyl dipeptide tel qu'il est produit au niveau du peptidoglycane bactérien. Et j'ai déjà dit et montré plusieurs fois l'importance de ce système global de reconnaissance tel qu'il peut se mettre en place à l'heure actuelle et représenter finalement un vrai élément de reconnaissance du danger, parce que quand il se passe quelque chose d'anormal à l'intérieur de nos cellules, c'est vraiment la dernière chance qu'on a, si je puis dire, de réagir et de faire quelque chose dans la réponse. Alors, juste pour revenir à cette maladie de Crohn, toutes les mutations ont été clonées, séquencées, ou les polymorphismes en tout cas, et en fait, on s'est aperçu que pour l'essentiel, soit effectivement il y avait des polymorphismes qui ne s'expliquaient pas toujours très très bien, mais que dans les grandes formes graves, on observait, c'est un petit peu contre-intuitif parce que là, ça nous montre l'intensité d'inhibition de la fonction pro-inflammatoire de ces molécules dans des systèmes rapporteurs où on regarde l'activation de la voie NF-kappa-B, on voit que la plupart de ces grandes mutations dont je vous ai parlé en fait entraînent une perte majeure de fonction de la molécule NOD2 puisqu'on descend quelque part aux alentours de 1%. Donc ces mutations qui donnent la maladie de Crohn familiale sont des mutations qui causent finalement hyperinflammation, avec une destruction de l'épithélium, de la muqueuse intestinale, alors qu'on s'attendrait à avoir peu d'inflammation puisqu'on a cassé la fonction d'une molécule clé de la réponse pro-inflammatoire. Alors, je soulève ce point parce que ça a été notre réflexion à tous au début, avec les cliniciens et les immunologistes et les généticiens avec lesquels on a discuté, c'est comment peut-on expliquer qu'on puisse faire plus d'inflammation avec une perte de fonction d'une molécule qui a l'air clé dans la régulation de tout système. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait peut-être dire les choses un peu simplement, à savoir, si la veille microbienne n'est pas faite correctement, l'hôte ne va pas détecter suffisamment à temps un épisode anormal d'accumulation microbienne ou la présence anormale d'un microbe un peu plus pathogène que d'autres. Je vous avais dit que il y avait les commensaux, il y avait les pathogènes, mais qu'il y avait énormément de recouvrement entre les deux quand j'ai fait cette leçon sur l'identité génétique des pathogènes. Donc, on peut toujours se dire que, comme l'hôte s'est pris trop tard pour répondre, il est obligé d'utiliser des mécanismes d'urgence beaucoup plus agressifs et qu'on se retrouve, par cette mauvaise gestion de la crise, dans une situation hyper-inflammatoire non régulée. Mais ça, c'est peut-être une façon un peu trop simpliste de voir les choses et je voudrais juste vous remettre un petit peu en retour sur les peptides antimicrobiens, car il y a peut-être, parmi d'autres explications à cette maladie de Crohn, une explication qui peut apparaître ici et qui la relie sans doute très facilement aux peptides antimicrobiens. Ça, c'est une marquage sur un iléon non inflammatoire. On est dans une situation de physiologie, là. Vous reconnaissez bien entendu les villosités intestinales, vous reconnaissez la crypte intestinale, et ce marquage, il est pour la molécule NOD2. Et ce que vous voyez en fait, c'est que dans l'épithélium intestinal, la molécule NOD2, elle est associée essentiellement à une population cellulaire dont je vous ai parlé, qui s'appelle les cellules de Paneth. Et vous voyez qu'on a ici un co-marquage en fait avec l'anti-NOD2 et un anti-lysozyme qui nous montre que ce sont les cellules de Paneth en fait qui, dans l'épithélium intestinal, essentiellement hébergent de façon constitutive cette protéine NOD2. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que beaucoup de travaux récents, ces quelques dernières années, qui sont maintenant revus et mis en perspective, en particulier par un médecin chercheur allemand qui s'appelle Wehkamp, montrent en fait que, qu'on soit dans l'épithélium de l'intestin grêle ou qu'on soit dans l'épithélium du côlon, on note dans la maladie de Crohn une baisse majeure de l'expression des peptides antimicrobiens. Donc, probablement, cette histoire de NOD2, si je puis dire, présent dans les cellules de Paneth, elle n'est pas tout à fait bénigne et elle n'est pas tout à fait accidentelle. Il n'est pas du tout impossible que les mutations dans NOD2 font que les cellules de Paneth ne sont pas capables de sécréter ces peptides antimicrobiens, en tout cas dans le cas présent, les alpha-défensines. Même chose dans les cellules épithéliales, en particulier du côlon et de l'ilion. Et qu'en réalité, on se trouve dans une situation où on a énormément de difficultés du fait de l'absence de ces peptides antimicrobiens dont je vous ai montré et dit qu'ils avaient ce rôle majeur dans le maintien de cet équilibre et de cette distance de la flore intestinale par rapport à l'épithélium. L'épithélium, maintenant, pourrait être submergé par les micro-organismes. Et quand on regarde rétrospectivement, finalement, un certain nombre de travaux, en particulier un très joli travail d'un chercheur allemand aussi, qui s'appelle Svintinski, publié en 2002, ce que cette diapositive montre, à gauche, c'est la bonne santé, et à droite, c'est la maladie de Crohn. Ce que vous voyez que dans une situation de bonne santé, où ce qui a été utilisé, c'est cette méthode FISH dont j'avais déjà parlé, en fait, c'est une méthode d'identification moléculaire des bactéries par des sondes spécifiques fluorescentes. Pardon. Si on utilise une sonde spécifique pour des protéobactéries, c'est-à-dire des colibacilles, des klebsiels, tous ces micro-organismes à gram négatif aéro-anaérobie dont on a souvent parlé, on s'aperçoit qu'ils sont présents dans l'intestin des sujets en bonne santé, mais ils sont présents à très faible densité. On avait dit que c'est 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5 dans le côlon par rapport à 10 puissance 10 ou 11 de grammes de sel des bactéroïdétes et des firmicutes. Par contre, lorsqu'on est dans une situation de maladie de Crohn, on s'aperçoit que ces protéobactéries, non seulement elles prolifèrent considérablement, vous comparez ça, cette fluorescence-là, à ces quelques bactéries qu'on voit ici ou là, donc non seulement elles prolifèrent, mais en plus elles sont collées à la surface de l'épithélium. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quelque part, et je vous avais montré une diapositive montrant dans les maladies inflammatoires de l'intestin cette espèce de switch de population bactérienne, avec les anaérobies grammes négatifs qui disparaissent quasiment, les firmicutes qui sont considérablement délétés et la prise de pouvoir, si je puis dire, des protéobactéries qui non seulement deviennent prédominantes, mais en plus se mettent à être en étroite relation avec l'épithélium intestinal. Donc ce qu'on peut penser dans ces schémas physiopathologiques, en réalité, c'est une des explications probables parmi d'autres, mais c'est celle qui peut-être pour l'instant est la plus claire dans ce type de maladie, c'est que cette incapacité de reconnaître la présence de micro-organismes à temps par cette anomalie, par exemple, de la molécule NOD2. Cette incapacité de ce fait de produire un niveau suffisant en présence de stress infectieux de peptides antimicrobiens va amener à rapprochement de ces entérobactéries, de ces protéobactéries de la surface épithéliale. Ça va entraîner une inflammation. Je vous avais déjà dit que l'inflammation, d'ailleurs, en elle-même, délétait considérablement les populations microbiennes commensales anaérobie strictes. Et on va avoir peu à peu une substitution de flore qui est à la fois ce qu'elle ne devrait pas être, c'est-à-dire des micro-organismes qui ont des pamps assez agressifs, comme le lipopolysaccharide des entérobactéries, par exemple, et qui en plus ne sont pas du tout où elles devraient être, puisqu'elles devraient siéger à distance de cet épithélium de surface et qu'en fait, là, elles sont collées dessus. Alors ça, c'est une explication qui est en train d'émerger, pour laquelle des modèles expérimentaux sont en cours, et qui fait dire que peut-être un certain nombre des bactéries qui ont été découvertes à l'occasion du Crohn, de la maladie de Crohn, et qui sont un peu prises quelque part pour des agents responsables de la maladie de Crohn, sont en fait des micro-organismes qui sont sélectionnés parce qu'ils sont capables de survivre dans ces conditions un petit peu agressives de réponse inflammatoire qui se met en place, donc qui seraient pris dans l'ensemble de la flore intestinale, du microbiote, et amplifiés parce que les autres sont en train d'être détruits. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres explications possibles. En particulier, on sait qu'en présence du MDP, c'est-à-dire si on active les voies pro-inflammatoires, les gènes pro-inflammatoires via TLR4 avec du lipopolysaccharide, par exemple, il a été montré dans un certain nombre de papiers, vous avez une référence ici, que l'activation de la molécule NOD2 par du muramyl dipeptide, en fait, était capable de venir en boucle neutraliser l'activation de la voie NF-kappa-B par l'intermédiaire de l'expression d'une molécule qui s'appelle IRAC-M, qui est un des éléments peut-être de régulation négative. Donc il se peut que NOD ait plusieurs fonctions dans tout ça, une fonction de veille et d'induction de la production d'un certain nombre de mécanismes de défense, en particulier dans des sites stratégiques comme la crypte intestinale. Et je vous rappelle que c'est abcès, ces granulomes dans la maladie de Crohn sont essentiellement localisés à partir de la crypte intestinale initialement, mais peuvent aussi avoir un rôle de régulation négative des circuits de l'inflammation. Et bien entendu, ces mutations vont avoir ce qu'on appelle des effets pléiotropes, c'est-à-dire qu'elles vont casser à la fois des systèmes de défense, des systèmes de régulation et mener à cette inflammation telle qu'on l'a mentionnée. Donc, je pense que je vais arrêter là pour cette partie, pour cette maladie, pour cette introduction un peu à ces mécanismes de défense, en disant, bien entendu, qu'on est encore une fois là dans un concept de rupture d'un équilibre, d'un rupture de ce qu'on appelle l'homéostasie. Hein, l'homéostasie, c'est vraiment l'équilibre physiologique qui s'établit dans nos organes, y compris dans des situations où il faut gérer une interface entre des micro-organismes et des organes ou des épithélia, et qu'on peut imaginer que dans des situations particulières où des mutations vont entraîner un dysfonctionnement de ce mécanisme global de perception, reconnaissance et maintien à distance de la flore microbienne, on va se retrouver dans des situations où très vite les choses vont devenir ingérables pour l'organisme et où sa seule réponse possible va être l'inflammation et, encore une fois, la destruction par dommages collatéraux des tissus qui sont concernés par cette interface et cette interaction. Donc c'est une vision qui est intéressante et même passionnante à la limite, dans la mesure où il est probable que ce type de situation existe à d'autres niveaux, sur d'autres muqueuses ou d'autres épithélia qui sont en rapport avec une flore microbienne et que ce problème de gestion correcte de la flore microbienne commensale peut se poser au niveau de la peau. Il est probable que beaucoup de maladies cutanées inflammatoires ont, de façon plus ou moins importante, une composante liée à un dysfonctionnement de molécules de perception et de réponse. Et donc la recherche s'oriente vers ça. La recherche s'oriente de plus en plus vers, au-delà maintenant de la problématique des pathogènes, vers la problématique de la mauvaise gestion des flores, a priori non pathogènes, des flores commensales. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans une première partie concernant, disons, une problématique relativement locale qui est celle des maladies inflammatoires intestinales, même si ça peut parfois prendre des proportions qui sont pas si local que ça, si je puis dire. Alors, la deuxième partie de cette présentation va un petit peu, je dirais, dans l'esprit, dans le même sens. Et je voudrais d'ailleurs remercier ami et collègue Jean-Marc Cavaillon qui est là et qui verra peut-être retrouver un certain nombre de ces documents dans les diapositives que je vais montrer, puisque son groupe à l'Institut Pasteur travaille très très directement sur ce type de problématique. J'ai mis ça sous l'angle, bien entendu, signalisation innée du danger. J'avais fait une revue il n'y a pas très longtemps dans Nature Immunology, en appelant ça signalisation innée du danger en français et les dangers de la signalisation innée. C'est-à-dire que, bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Il y a aussi des problèmes dans nos systèmes et on en a parlé au tout début. Donc, ce que je voulais voir, c'est si on pouvait essayer de commencer à sortir quelques idées maîtresses concernant des situations gravissimes, comme vous pouvez l'imaginer dans ce cas, concernant des pathologies infectieuses, et en particulier le choc septique. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on va essayer de dégager un certain nombre d'éléments qui font finalement que cette boucle d'amplification et cette boucle régulatrice dysfonctionne et qu'au lieu de monter ici, on descend là. Voilà, dit simplement. Donc, pour simplifier un petit peu les choses, on peut envisager les infections. On en a déjà X fois parlé. Elles sont ce qu'elles sont, en particulier les infections, par exemple, par les bactéries à gram négatif classiques, une pyélonéphrite à colibacille, par exemple, ou une infection cutanée à streptocoque, ou une infection cutanée profonde à staphylocoque. C'est de la pathologie quotidienne. Alors, elle peut être bien entendu plus ou moins grave selon l'âge du sujet, selon les conditions dans lesquelles elle survient, si c'est quelqu'un hospitalisé, si c'est un opéré de la hanche, si c'est bon. Tout ça, c'est de la médecine quotidienne, et en règle générale, avec un traitement antibiotique et éventuellement une approche chirurgicale de drainage, ces foyers infectieux vont être contrôlés et on va s'en sortir très bien, et tant mieux. Seulement, de temps en temps, les choses ne se passent pas aussi bien. L'infection s'aggrave, commence à prendre un aspect plus, disons, systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la fièvre, il commence à y avoir des petits problèmes, la personne est fatiguée, a du mal à respirer, son cœur bat trop vite, commence à y avoir des petits éléments d'inquiétude, jusqu'à arriver à une situation qui s'appelle le sepsis sévère, qui est vraiment un élément où on commence à voir les grandes fonctions des grands organes ne plus se faire dans de bonnes conditions, la fonction respiratoire, la fonction cardiovasculaire, éventuellement l'état neurologique, et tout ça peut continuer malheureusement parfois à s'aggraver et se terminer dans ce qu'on appelle le choc septique, c'est-à-dire une vasoplégie globale qui fait qu'éventuellement l'individu va malheureusement décéder puisque, arrivé à ce stade, disons, ultime de choc septique, le taux de survie est inférieur à 50%. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu de la médecine clinique et cette diapositive est simplement pour dire ce que je viens de dire finalement de façon très simple. C'est-à-dire qu'un état de sepsis, c'est ce que vous connaissez tous les jours, il y a de la fièvre, il y a un pouls qui est en rapport et il y a une respiration qui est un peu accélérée et tout ça, c'est normal. Par contre, lorsque la situation s'aggrave, on va commencer à voir et on rentre là dans le sepsis sévère, ce que j'ai appelé vraiment des dysfonctions d'organes, c'est-à-dire que la respiration commence à se faire mal, la fonction rénale s'altère, la conscience peut éventuellement s'altérer, et on a des problèmes cardiovasculaires relativement importants. C'est là qu'il faut se réveiller, si tant est qu'il n'ait pas fallu éventuellement se réveiller plus tôt. Et puis, on peut malheureusement continuer à évoluer vers cette situation d'extrémité du spectre, si l'on peut dire, qui est celle, finalement, d'une situation où quoi qu'on fasse sur le plan de l'intervention médicale, la réanimation respiratoire, compenser les pertes hydroélectrolytiques, les antibiotiques, tout ce qu'on fait peut éventuellement amener à revenir en arrière, mais malheureusement, on sait bien qu'on est sur une très, très mauvaise pente et que les choses peuvent très vite s'aggraver. Donc, on a cette espèce de marche possible à l'occasion de phénomènes infectieux vers ce sepsis sévère et ce choc septique. Et bien entendu, toute l'attention, et Jean-Marc pourrait encore mieux que moi sans doute intervenir sur ces sujets-là, toute l'attention actuelle est d'essayer de jouer sur deux tableaux éventuellement. Le premier, c'est de détecter le plus tôt possible les patients qui sont en train de s'engager sur cette mauvaise pente, si je puis dire, de manière à pouvoir les traiter le plus vite possible, car on sait que c'est la seule façon d'améliorer le pronostic, c'est d'avoir un traitement antibiotique et de réanimation adapté dans l'état actuel des choses. Et puis la deuxième, au-delà de ce diagnostic précoce priorité, c'est d'essayer éventuellement de trouver... Donc ça veut dire trouver aussi éventuellement des marqueurs spécifiques, ce qu'on appelle maintenant des biomarqueurs. La deuxième priorité, c'est d'essayer de trouver enfin des médicaments qui puissent prendre en compte cet état de sepsis grave ou de choc septique et amener à sa réversion, sachant qu'on est là, bien entendu, au-delà de la simple problématique du traitement antibiotique dont on a déjà parlé. Alors, sans rentrer dans les détails, mais juste pour vous donner un petit peu le panorama, ces situations, elles surviennent dans beaucoup de conditions infectieuses, qu'il s'agisse d'infections abdominales, ça peut se voir après des chirurgies lourdes intestinales, au niveau du tractus urinaire, la peau, les tissus mous, le cathéter, en particulier les objets étrangers qui sont introduits, invasifs dans l'organisme. Je vous l'avais déjà dit quand je vous ai fait la présentation sur les bactéries à gram positif pathogène, cette capacité de coloniser très très rapidement tous les objets qu'on insère dans notre organisme est un risque. Les infections pulmonaires, bien entendu, c'est en gros le type de représentation respective de l'étiologie de ces infections qui vont, à un moment ou un autre, déraper vers le sepsis grave. Alors, la physiopathologie de ces états critiques en maladie infectieuse est, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement complexe. Et il est hors de question pour moi ce soir, ce serait vraiment très, très arrogant de dire que je vais vous donner les réponses. Je vais essayer simplement de vous décrire un certain nombre d'étapes qui probablement génèrent ou donnent lieu à des dysfonctionnements qui vont entraîner ce processus. Alors parfois, je vais employer un qualificatif qui est probablement peu acceptable, mais disons que parfois c'est relativement simple. En tout cas, je pense que c'est relativement simple. On a des situations, par exemple, et je vous en ai déjà parlé, comme les infections cutanées ou sous-cutanées, ce qu'on appelle des cellulites, c'est-à-dire l'infection du tissu sous-épithélial, par ces fameux streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A, Streptococcus pyogenes, qui vont donner ces infections qui diffusent très très rapidement à partir d'un foyer initial qui parfois peut être extrêmement limité. Je rappelle que Streptococcus pyogenes, c'est une bactérie à gram positif, hein, c'est un coccus, vous voyez qu'il est tout rond. Et donc ces micro-organismes vont très rapidement se développer, donner cette cellulite massive qui va aussi se transformer en fasciite, c'est-à-dire tous les aponevroses, tous les tissus qui sont entre les muscles commencent à s'enflammer et à être infectés, et éventuellement même une myosite avec une destruction musculaire. Et ça peut progresser en quelques heures, en disséquant littéralement finalement le tissu sous-cutané, en le séparant du substratum en dessous, et ça donne bien sûr ces lésions inflammatoires que vous pouvez voir là. Alors, je vous avais expliqué dans la physiopathologie des infections à streptocoque, par exemple, ou à staphylocoque, qu'on avait ces fameuses molécules qui s'appellent des super-antigènes, qui sont des molécules étonnantes. Elles sont produites essentiellement par les bactéries à gram positif, encore une fois, streptocoque, staphylocoque. Et elles ont cette capacité très, très bizarre, ces super-antigènes, en fait, d'aller un peu se fixer en pont entre le récepteur des cellules T, le T-cell receptor, et l'antigène de MHC de classe 2, puisque vous savez que c'est par l'intermédiaire de cette liaison au niveau de la synapse immunologique que se fait la présentation de l'antigène. Et en fait, en assurant cette cohésion entre l'antigène de classe 2 et le TCR, sans avoir besoin même de l'antigène ou du peptide spécifique qui est reconnu, cet super-antigène va donner lieu à une activation massive des cellules T, voire aussi des cellules B, dont certaines d'ailleurs vont être délétées très très rapidement par apoptose, et ça va donner lieu à la libération massive de cytokines pro-inflammatoires, en particulier d'interférons, de TNF, qui va entraîner une réaction inflammatoire massive. Et expliquer finalement probablement très facilement cet état hyper-inflammatoire qui se met en place dans ce type de lésion. Alors, je vous avais expliqué que c'était un peu plus compliqué que ça quand même, que ces bactéries peuvent aussi produire des protéases qui clivent l'interleukine 8, qui empêchent le recrutement des polynucléaires neutrophiles. C'est comme d'habitude, bien entendu, complexe, mais il y a dans ces super-antigènes une capacité, finalement, je dirais, relativement simple dans le concept, d'entraîner une réaction inflammatoire par un mécanisme qui était au départ assez inattendu. Et beaucoup de pathologies qu'on observe lors des infections à staphylocoque, en particulier des complications systémiques rapides, peut-être vous vous souvenez, au début des années 80, on a eu cette maladie qui a émergé aux États-Unis des tampons périodiques, c'est-à-dire des jeunes femmes utilisaient des nouveaux tampons périodiques, je ne dirais pas la marque, et faisaient un syndrome fébrile avec une éruption ressemblant très fort d'ailleurs à des infections à gram positif, et très rapidement faisaient un choc septique mortel. Et en fait, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était lié à la colonisation par un staphylocoque aureus qui produisait une toxine super-antigénique qui entraînait justement ces troubles à distance par cet orage massif de cytokines qui était induit. Donc, voilà un peu pour les cas, disons, où on retrouve relativement facilement ces marques. Mais il y a d'autres situations où les choses sont quand même beaucoup plus compliquées, et elles le sont de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors, ça, c'est un exemple. Je suis désolé, les photos ne sont pas belles, mais enfin, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Si on parle de maladies infectieuses, malheureusement, il y a des choses pas toujours très jolies à observer. Ça peut être un adolescent de 15 ans qui rentre de son match de foot en pleine forme, enfin un peu fatigué du foot. Et puis, une heure après, il a un peu mal à la tête, il a de la fièvre, il ne se sent pas bien. Et deux ou trois heures après, il est aux urgences de l'hôpital avec un purpura des extrémités, en particulier des pieds, des chevilles et des mains, comme vous pouvez le voir ici. Et si les choses ne sont pas prises en charge suffisamment à temps, c'est-à-dire si on ne reconnaît pas que ce jeune homme ou cette jeune femme est en train de faire ce qu'on appelle un purpura fulminans méningocoxique, car ça peut survenir avant même que la méningite à méningocoque n'ait commencé à se manifester, ce jeune personne en pleine santé quelques heures avant va décéder de choc septique et on en voit chaque année 150-200 en France dans nos urgences hospitalières. On sait que le SAMU sait qu'il faut les traiter tout de suite aux antibiotiques, mais encore faut-il avoir le réflexe de soulever le pantalon et de regarder s'il y a ces taches purpuriques. Donc ça fait partie de ces drames de la vie courante dont on entend parler à la radio assez régulièrement, hein, ces épisodes de méningite à méningocoque qu'on peut voir dans certaines régions sont souvent émaillés de quelques complications de cette nature. Et là, on rentre finalement d'emblée dans ce que peut être le choc septique, disons dans sa forme la plus pure, parce qu'il est certain qu'on ne le voit pas toujours dans cette situation-là, et il est d'ailleurs beaucoup plus difficile à ce moment-là à identifier en tant que tel, c'est-à-dire qu'on peut le voir aussi chez des patients âgés, opérés, déjà en réanimation, donc dans des situations où les paramètres vitaux sont déjà relativement altérés. Là, on parle d'un individu, encore une fois, qui rentrait du football et qui était en pleine forme, qui n'avait jamais eu de maladie auparavant. Au passage, on parlait de vaccin. S'il y en a un auquel il faut vraiment songer sérieusement, c'est celui-là, le vaccin antiméningocoxique. Alors, encore une fois, comme je vous ai un peu parlé en termes de non ou de mauvais contrôle, finalement, des réponses dans ce qui va amener, par exemple, la maladie de Crohn, on peut penser que dans ce type de situation infectieuse, hein, là c'est la peau par exemple, on a des micro-organismes, on a la libération des PAMPS, on a la reconnaissance bien entendu par le système immunitaire, les TOL, les NOD, vous en aurez entendu jusqu'à la nausée, et on a des réactions. Alors, soit encore une fois, dans l'immense majorité des cas, les choses se passent bien, on a une réponse qui est finalement équilibrée, contrôlée, avec finalement les étapes qui se déroulent correctement, et on éradique le micro-organisme, on répare les tissus qui ont été éventuellement détruits, et tout va bien, on guérit. Soit les choses se passent mal, la réponse se déséquilibre, et on va se retrouver avec finalement quelque chose qui apparaît de plus en plus dans la physiopathologie de ce choc septique, c'est un état, disons, d'hyperinflammation avec des quantités très très importantes de cytokines, de facteurs de la coagulation, de médiateurs de l'inflammation qui vont être libérés, le complément par exemple, et puis en parallèle une immunosuppression avec finalement une espèce de mécanisme qui est à la fois initialement d'hyperinflammation puis de cellules qui perdent leur capacité, leur compétence à produire des molécules inflammatoires et qui deviennent incapables d'éradiquer probablement plus avant les micro-organismes, et puis un vrai état d'immunosuppression au sens strict du terme, on y reviendra rapidement, c'est-à-dire de destruction des lymphocytes. Alors, cet état initial, en tout cas, puisque apparemment on peut peut-être dire ou penser que le dérapage du système il se fait très tôt par cette réponse probablement trop inflammatoire, il peut être vu, effectivement, dans cette situation dont on vient de parler, de sepsis à méningocoque. Ici, les points rouges, c'est des individus qui ont fait une infection à méningocoque. On a ici à droite ceux qui sont décédés de cette infection à méningocoque et ici à gauche ceux qui ont survécu à cette infection à méningocoque. Et on voit quand même, sans être un grand statisticien, qu'il y a une différence très claire dans les niveaux de TNF, le tumor necrosis factor, qui est une des molécules cytokines pro-inflammatoires témoins et extrêmement importantes dans tous ces systèmes, bien plus élevé, et vous voyez quand même à des titres 3, 4 fois plus élevé que chez les individus qui ont survécu. Donc on peut se dire que quelque part, les choses vont trop loin, soit parce que le système répond trop fort, soit inversement, éventuellement, parce qu'il ne répond pas assez fort et que la masse bactérienne qui s'accumule parce qu'elle n'a pas été contrôlée assez vite va donner lieu éventuellement à cette réponse inflammatoire extrêmement importante. Et on retrouve des images à peu près similaires chez les non-survivants et survivants en général de chocs septiques ou d'infections à gramme négatif. Alors, ça je crois que c'est quelque chose que j'avais probablement emprunté à Jean-Marc Cavaillon, c'est de se dire que dans cette espèce de schéma que je vous ai présenté sur la perception du danger microbien, en particulier les toll-like récepteurs, et il est hors de question de rentrer dans les détails de ça. Simplement, ce qui est en lettres jaunes dans des cases rouges, qu'on peut enrichir d'ailleurs, correspond à ces mécanismes de régulation négatifs dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que quand un micro-organisme ou des PAMPS, c'est-à-dire des fragments de ce micro-organisme, encore une fois, engagent ces récepteurs de la surface des cellules, en particulier immunitaires, comme les macrophages, on ne va pas simplement mettre en branle ces voies de signalisation pro-inflammatoires et ne rien faire d'autre. On va en permanence aussi mettre en branle des mécanismes de régulation qui vont faire qu'à tout moment, que ce soit au niveau de la distribution des éléments de sensing des toll-like récepteurs à la surface, que ce soit au niveau de leur assemblage, vous avez vu le problème de la dimérisation, que ce soit au niveau de leur clivage, que ce soit au niveau des signaux, en particulier des molécules qui permettent de transférer ce signal pro-inflammatoire vers l'activation de la voie NF-kappa-B, on a des systèmes qui vont réguler négativement tout ça. Donc on peut éventuellement mettre le doigt sur chacun de ces systèmes et se dire peut-être il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas bien chez ces individus et c'est pour ça que la situation dérape et qu'ils sont incapables, comme on en a parlé tout à l'heure pour la maladie de Crohn, de gérer ce stress microbien. Premier point. Deuxième point, encore une fois, j'essaye d'avancer un peu clairement là-dedans, quitte à simplifier un petit peu trop les choses. Deuxième point, c'est que, et on l'a déjà dit, tous les jeunes adolescents qui font une infection à méningocoque ne font pas un purpura fulminans. Toutes les personnes qui subissent une chirurgie intestinale avec éventuellement un abcès péritonéal ou je ne sais quoi ne font pas un choc septique à gram négatif ou à bactéries anaérobies, à Bacteroides fragilis ou autres qui sont les microbes qu'on retrouve habituellement dans ces situations. Donc ça veut dire qu'il y a une grande variabilité dans cette susceptibilité au sepsis grave et bien sûr dans son pronostic. Et une partie finalement de cette variabilité Comme on l'a dit pour la maladie de Crohn tout à l'heure, pour faire des parallèles peut-être un petit peu simplistes, peut être dû à une variation dans des gènes qui codent pour des facteurs de l'immunité innée. Donc on peut s'attendre qu'à tous ces éléments dont on a parlé, et ça vous en dit long sur la complexité du système, on puisse trouver des polymorphismes, des mutations qui vont affecter la fonction de ces molécules, par exemple empêcher une molécule de régulation d'effectuer son travail proprement. Et donc on se retrouve finalement potentiellement à la tête de gènes candidats de façon très importante et avec une masse d'informations possibles difficiles à gérer. Et beaucoup d'études ont été faites qui sont régulièrement revues et remises à jour par un certain nombre d'auteurs qui connaissent bien ces domaines sur, par exemple, les polymorphismes génétiques identifiés dans des gènes qui codent pour des protéines, alors, soit impliquées dans la reconnaissance des pathogènes bactériens, TLR4 par exemple, pour le LPS, CD14 qui est un cofacteur d'activation de TLR4, FC-gamma-R2A, mannose binding lectin, qui est une lectine qui circule en grande quantité dans le sérum et qui se fixe à tous les micro-organismes qui ont du mannose à leur surface, et il y en a beaucoup, ou bien des molécules qui assurent, c'est le bras armé de la réponse aux pathogènes, le TNF, bien entendu, l'IL-1, l'IL-6, l'IL-10 et un certain nombre d'autres éléments, l'angiotensine, on en a parlé la dernière fois dans la régulation de l'inflammation pulmonaire, le plasminogène, des éléments qui sont un peu à la limite entre ces effecteurs et puis des éléments plus complexes, des cascades de signalisation, comme par exemple le complément. Alors, la question, c'est ça existe ou ça n'existe pas ? La réponse, c'est ça existe. Et des études maintenant nombreuses, relativement bien organisées sur le plan de la méthodologie pour s'adresser à des groupes d'individus relativement homogènes, font qu'on peut montrer l'existence de mutations en fait dans des molécules qui vous sont maintenant familières et les associer avec une évolution par exemple plus grave des sepsis et une plus grande possibilité de déraper, si je puis dire, vers le choc septique. Alors, il y a une mutation au 159, qui est une cystéine qui se transforme en tréonine dans CD14. Il y a deux mutations qui sont maintenant bien connues, une asparagine 299 qui se transforme en glycine, une tréonine en 399 qui se transforme en isoleucine. Tout ça, ce sont des marqueurs polymorphiques qui sont caractéristiques d'une plus grande susceptibilité à ce sepsis à gram négatif. Mais on trouve la même chose dans TLR2, je ne vous détaille pas ça, c'est écrit. Il y a des travaux très jolis, par exemple, par le groupe de Jean-Paul Mira à Cochin sur la génétique de la susceptibilité au gramme positif. La légionellose, qui peut, en elle-même, par le biais de l'infection pulmonaire, causer un état de sepsis relativement grave. Un polymorphisme a été identifié, fait un codon stop. Hein, c'est une vraie mutation dans TLR5. D'ailleurs, TLR5, c'est un peu bizarre parce que dans cette salle, on est probablement un bon quart à avoir un TLR5 non fonctionnel, et à la limite, on s'en porte pas si mal. Donc, il doit y avoir des mécanismes régulateurs qui permettent de compenser pour ça. Néanmoins, on trouve dans TLR5, dans certaines situations, la possibilité qu'effectivement cette mutation ait un effet visible en termes de susceptibilité. Et donc, ces mutations dans TLR4, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure pour la maladie de Crohn, par exemple, pour NOD2. On voit qu'en réalité, ce sont des mutations qui entraînent une diminution de la fonction, c'est-à-dire que les cellules prises éventuellement de ces individus exposés à du lipopolysaccharide ou ces individus exposés à du lipopolysaccharide eux-mêmes dans des essais cliniques, en fait, répondent beaucoup moins bien. Donc, encore une fois, on est dans une situation où probablement la boucle qui s'engage n'est pas une boucle primaire, c'est-à-dire qu'à un stress microbien va répondre une réponse plus importante. En fait, on est probablement dans un système beaucoup plus complexe où à stress microbien doit répondre un système, par exemple, de toll-like récepteur fonctionnel qui va reconnaître exactement la présence du microbe, sa quantité, sa densité, et entraîner une réponse adaptée à cette situation. Et si cette réponse ne se fait pas, il est fort probable que, pour des tas de raisons, cette reconnaissance trop tardive va donner lieu à une réponse beaucoup plus importante et non contrôlée. Donc on rentre là vraiment dans tout ce qui est les mystères de l'homéostasie de ces processus. Et je vous donne ces éléments-là pour y réfléchir, parce que je pense qu'ils sont quand même assez largement à l'origine de cette cascade qui fait que certains individus vont plus que d'autres déraper, si je puis dire, vers ces complications à l'occasion d'une infection de gravité similaire initialement. Alors, ce que j'avais dit au départ, c'est effectivement, quand on commence, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais à savonner la planche, les choses vont s'accélérer probablement. Et à partir du moment où les étapes initiales de cette interface entre le microbe et l'hôte ont été mal gérées, d'autres éléments vont rentrer en ligne de compte, on commence à en connaître, des molécules comme j'avais mis TREM1, comme Dectine, c'est simplement pour vous mettre les noms en tête, sont des éléments qui sont susceptibles d'accentuer considérablement le niveau du signal inflammatoire qui est induit, en particulier de la production de TNF. Donc, encore une fois, on se met sur un versant qui va très rapidement, par des mécanismes amplificateurs, donner lieu à cet excès dans la signalisation pro-inflammatoire, né, encore une fois, initialement peut-être d'une insuffisance de la qualité du signal de la réponse inflammatoire primaire. Alors, l'autre élément, j'égrène un peu des éléments d'aggravation possible de la situation, mais je le fais parce que ce sont tous des éléments qui sont à un moment ou un autre actuellement réfléchis dans la prise en charge de ces situations de choc ou en tout cas au moins de sepsis grave pour essayer de freiner et de faire réverser ces processus de signalisation inappropriés. Alors l'autre, et on revient, parce que finalement tous les chemins mènent à Rome, est un autre processus éventuel d'amplification de signaux, dont on a déjà parlé X fois, y compris au début de cette présentation, qui est l'existence de ces molécules de perception intracellulaire, en particulier de ces molécules de la famille NALP ou NLRP3, c'est un petit peu compliqué, hein, vous souvenez, c'est cryopyrine et autres, qui sont susceptibles de s'associer à des molécules d'échafaudage comme ASC et d'activer, par exemple, procaspase 1 qui va cliver l'IL-1-bêta, l'IL-18 et entraîner la libération massive d'IL-1-bêta qui est une cytokine vraiment clé dans la mise en place rapide et puissante de la réponse inflammatoire. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'activation de ce système, hein, ce travail en particulier de Yo Chop à Lausanne, mais de beaucoup d'autres équipes, lui, a assez contribué à conceptualiser le modèle, consiste à dire que se met en place cette agrégat de cellules, de molécules de signalisation qu'on appelle l'inflammasome, qui va amener à la libération massive de l'IL-1-bêta, et surtout que ceci se fait vraiment à la fois en présence de molécules infectieuses, enfin d'origine microbienne, mais aussi, comme je vous l'ai dit, en présence d'éléments physiologiques ou physiopathologiques. La fuite de potassium, par exemple, pour une cellule dont la membrane et les canaux membranaires souffrent, l'excès d'ATP, la présence de cristaux d'acide urique, tout ça sont des éléments, et je pense qu'il faudrait commencer à en faire vraiment le catalogue, qui sont sentis comme un danger qui peut être d'origine microbienne ou qui peut être de toute autre nature, et on a des situations d'équivalent de chocs septiques qui sont des chocs liés à des pathologies dont il est clair que probablement il n'y a pas d'éléments infectieux sous-jacents. Alors, le troisième élément d'amplification éventuelle, je l'ai mis sous cet angle-là, ça peut se discuter, mais je voulais essayer, encore une fois, de progresser de façon un petit peu logique, en tout cas selon ma logique à moi. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'émerger à l'heure actuelle, qui est d'ailleurs passionnant. C'est le fait que, certes, il y a les PAMP, on en a parlé X fois, c'est-à-dire ces éléments microbiens reconnus par les cellules qui perçoivent ces micro-organismes, hein, encore une fois, les toll-like récepteurs, les node-like récepteurs, ainsi de suite, les dectines et autres mannose binding receptors. Mais on s'aperçoit de plus en plus Et je viens d'en parler finalement quelque part, l'ATP ou d'autres éléments, l'acide urique, qu'il existe dans notre organisme ce que maintenant on appelle des DAMPs, c'est-à-dire des Danger Associated Molecular Patterns. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des morceaux de microbes, si je puis dire, mais on est sur des éléments qui nous sont propres, mais dont la présence excessive ou la dégradation excessive ou la présence à un endroit où il ne faudrait pas qu'il ne soit va être perçue comme un danger et donner lieu à la mise en route de cette cascade de façon aussi efficace que ne le font les micro-organismes. Et on est là dans des éléments qui sont vraiment au cœur, finalement, à l'intersection des processus infectieux et des processus de stress de l'organisme, comme on peut en voir dans un traumatisme grave, dans une chirurgie vasculaire lourde, dans une maladie, un lupus érythémateux disséminé à un stade très avancé avec des situations qui, encore une fois, ressemblent à du choc septique. Et de là, alors ce que je vous dis là est souvent assez sujet à controverse, et je dirais que quelque part, il est dommage que ce soit sujet à controverse parce qu'il y a probablement beaucoup de vrai là-dedans. Simplement, ça a parfois été présenté de façon un petit peu excessive dans le rôle que ça peut jouer. Néanmoins, on est dans une situation où, je prends un exemple, nos tissus, nos cellules sont, par exemple pour un épithélium cutané, on a parlé du streptocoque tout à l'heure, sont associés à un tissu de soutien, une membrane basale, un tissu conjonctif, et ces tissus de soutien sont très riches, comme vous le savez, en des protéines, fibrinogènes, fibronectines, et ainsi de suite. Mais toutes ces protéines qui concernent la matrice cellulaire sont très souvent branchées, ou sur elles se branchent des motifs polyosidiques complexes avec des acides sialiques, des éléments qu'éventuellement on peut résumer pour certains d'entre eux sous le nom des paranes sulfates. Hein. C'est ce qu'on peut mentionner de façon la plus simple possible. Or, dès qu'une réaction inflammatoire se met en place, beaucoup d'enzymes sont libérées par les cellules, en particulier des protéases, qui vont dégrader ces protéines de matrice et entraîner brutalement la libération à partir des tissus de facteurs qui ne sont pas des facteurs microbiens, qui encore une fois sont des facteurs de l'hôte, qui sont des facteurs comme les éparanes sulfates maintenant clivés, libres. Et croyez-le ou non, ces facteurs peuvent être des agonistes pour les toll-like récepteurs et en particulier, par exemple, pour TLR4. C'est-à-dire que maintenant, ce TLR4, qui a reconnu initialement les lipopolysaccharides des cellules, des bactéries, pardon, il se met à reconnaître des éparanes sulfates libérées secondairement au développement du processus infectieux et inflammatoire. Et quelque part, on peut presque penser que même si les bactéries sont moins là, parce que les antibiotiques sont en train de faire leur rôle, l'hôte prend le relais dans cette signalisation interne en utilisant comme agoniste de ces tolls non plus les motifs bactériens, mais des motifs qui lui sont propres. Et c'est ça, cette notion de DAMPS. Et on rentre très, très vite dans une théorie qui a été émise il y a presque probablement 20 ans maintenant hein, par Polly Matzinger aux États-Unis, qui est une jeune femme, elle est moins jeune maintenant, bien sûr, médecin et immunologiste, qui dit qu'en fait, l'ensemble de notre système immunitaire, quand il se comporte dans ce type de situation, fonctionne finalement moins à partir de reconnaissances très particulières de tel ou tel motif, tel qu'on peut le voir dans la réponse immunitaire adaptative, mais fonctionne beaucoup plus par l'intermédiaire de mécanismes de perception de danger cellulaire. L'exemple extrême qu'elle prend, c'est que, par exemple, un rejet de greffon rénal est probablement beaucoup plus lié au fait que le greffon est moins bien vascularisé qu'un rein normal, donc souffre d'anoxie, donc libère ces molécules de danger dont on a parlé, beaucoup plus que en fait, la présence chez l'individu greffé d'anticorps qui vont détruire finalement ce greffon hétérogène. Alors, cette vision un petit peu anarchiste de l'immunologie lui a valu pas mal de réactions négatives, vous pensez bien, du monde immunologique au début. Je pense qu'elle y a pris d'ailleurs beaucoup de plaisir. Et néanmoins, plus les choses évoluent dans ce domaine, plus on s'aperçoit qu'elle a probablement raison, mais pas nécessairement raison sur l'ensemble de la ligne, mais raison sur le fait que dans la mise en place, dans la mise en branle de cette réponse innée, en termes même d'agonistes, on a certes des bactéries, des motifs bactériens, mais on a aussi des éléments de l'hôte, dégradés, anormaux, pas à leur place, qui prennent le relais en tant qu'agonistes et qui, vu que le réservoir est absolument permanent et impossible à épuiser, vont pouvoir maintenir cet état de stimulation permanent du système immunitaire inné, là, et dans des durées qui sont incompatibles, bien entendu, avec une guérison normale. Et ça explique probablement ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des situations très identiques dans des pathologies traumatiques, dans des pathologies anoxiques, dans des maladies immunopathologiques, comme par exemple le lupus érythémateux disséminé, où les individus vont faire un tableau qui est typique d'un choc septique, sauf qu'il n'y a pas de micro-organismes en cause. Donc on rentre là dans tout cet élément, vous le verrez, le terme est assez facile à retenir, d'alarmine, c'est-à-dire de molécules endogènes qui, à l'occasion, pour ce qui nous concerne ici, d'un stress infectieux, vont être libérées par les cellules et rentrer dans le circuit et accentuer, accélérer, si je puis dire, ce processus de signalisation. J'ai parlé des éparanes sulfates, il y en a d'autres comme HMGB1, mais je n'ai pas le temps et je préfère pas trop rentrer dans ces considérations parce qu'après ça devient un petit peu trop compliqué et à force de vouloir, disons, mettre en valeur certains éléments, on en oublie d'autres. Je pense qu'il vaut mieux essayer de garder une espèce de d'approche un peu dynamique du processus. Donc notre vue sur le sepsis sévère et le choc change progressivement grâce à beaucoup de travaux. Dire que ça a changé spectaculairement le pronostic, ça malheureusement c'est une autre affaire parce que beaucoup des approches basées sur cette science qui s'améliore, qui se complète dans ce domaine, ont échoué, que ce soit des anticorps monoclonaux pour titrer, neutraliser l'endotoxine du lipopolysaccharide, que ce soit des molécules comme la protéine C activée qui régule la cascade de la coagulation, dont on pense qu'elle joue un rôle très très important dans l'aggravation de ces problèmes de sepsis. Beaucoup des approches ont été finalement généré beaucoup d'espoir, d'enthousiasme et malheureusement n'ont pas toujours donné lieu à des résultats très considérables en tant qu'amélioration du pronostic. Peut-être des corticoïdes à certaines doses, à certaines périodes, mais le tableau reste quand même globalement le message extrêmement préoccupant et la lumière est loin d'être visible pour ce qui concerne, disons, des thérapeutiques et des approches à partir du moment où le phénomène est vraiment en place. Donc, les éléments pour peut-être essayer de simplifier un petit peu les choses, c'est le sepsis est une réponse systémique inadaptée de l'organisme de l'hôte à l'invasion microbienne, de tissus qui, en règle générale, bien entendu, sont stériles. L'acmé, le maximum d'interactions, disons, complexes entre l'agent infectieux et les réponses inflammatoires, immunitaires, la coagulation de l'hôte influence considérablement cette évolution du sepsis. Ça, c'est pour dire que ce n'est pas un seul phénomène, une seule cascade, c'est beaucoup de choses qui convergent pour la création de cet état relativement dramatique. Le sepsis était jusqu'à présent regardé comme situation d'hyperinflammation, d'hypercoagulation. Le sepsis, c'était hyper tout, si je puis dire. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je viens d'essayer de vous en donner quelques éléments. On est en présence en particulier de situations où probablement un niveau de dommage cellulaire existe au-delà duquel, que ce soit en matière de signalisation, et on rentrerait là, je vous en ai déjà parlé, dans les problèmes de tolérance et du fait que certaines cellules deviennent gelées à la réponse aux agonistes. Jean-Marc, ce serait la situation que tu as vue avec les monocytes circulants, par exemple, des patients en état de choc. On a tout un tas de situations où on a un peu l'impression que finalement, à un moment, c'est dommage, cet excès de signaux de danger amène à une espèce, au-delà des hyper-inflammations, coagulations, une espèce de sidération des réponses et à la difficulté, à la capacité de faire machine arrière. Alors, le dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que ça, c'est quelque chose qui émerge à l'heure actuelle, et ce sera en deux diapositives, et je vous laisserai tranquille, c'est qu'au-delà de ce dysfonctionnement majeur, et je vous passe les cascades avec les flèches qui s'enchevêtent dans tous les sens pour la coagulation, encore une fois, l'inflammation, ce qui apparaît clairement à l'heure actuelle et qui, bon, au-delà de, bien sûr, du côté dramatique de la situation médicale et quelque chose d'assez passionnant sur le plan des mécanismes fondamentaux, c'est ce qu'on pourrait considérer comme une délétion massive, avec Jim DiSanto, on appelle ça aussi une rétraction massive du système immunitaire à l'occasion de ces situations de drames infectieux. Et ce qu'on voit en particulier par un développement massif de processus apoptotiques, c'est que dans des modèles expérimentaux, par exemple, le sepsis induit l'apoptose des lymphocytes B et des lymphocytes CD4+, ainsi que des cellules dendritiques. Vous voyez ici, par exemple, dans une situation de traumatisme, comparé à une situation vraiment engagée dans le choc septique, vous voyez les follicules dans la rate, par exemple, sont d'une taille raisonnable. Et vous voyez ici qu'à l'occasion d'une situation de choc septique, les lymphocytes B ou T, selon le type de marquage, ont quasiment disparu. Et si on fait des marquages pour l'apoptose, en marquant par exemple la présence d'une caspase 9 active, qui est une des caspases à l'extrémité de la chaîne de clivage, vous voyez qu'il y a énormément d'activité, caspase 9, donc énormément d'apoptose. Donc, on a, sans parler des cellules dendritiques, vous voyez qu'ils sont quasiment devenus inexistantes ou mortes ou ayant perdu l'expression de leur marqueur de surface. Donc, on est, et c'est peut-être un fait qui commence à émerger de façon récente, dans cette situation, encore une fois, où on a d'un côté ces dysfonctionnements de l'inflammation, et puis d'un autre côté, un élément qui peut-être joue son rôle en phase aiguë dans la survie de ces patients, parce que, bon, contrairement au purpura fulminans qui peut être mortel en quelques heures, on peut se trouver parfois dans des situations où les choses durent plus longtemps, sur plusieurs jours, et où, comme on le sait maintenant, la mise en place d'une réponse immunitaire adaptative efficace va être la seule qui va permettre d'éradiquer finalement un micro-organisme. Donc là, semble se préparer, à l'occasion de ces sepsis graves, une vraie situation d'immunodéficit par délétion massive de l'ensemble des populations cellulaires, des cellules dendritiques aux cellules B et aux cellules T, qui crée donc possiblement une plus grande fragilité encore, si c'en était besoin, de ces patients en les empêchant de développer une réponse adaptative. Qui fait que dans beaucoup de situations, on s'aperçoit maintenant qu'un patient en choc septique va éventuellement, ou en sepsis grave, va se stabiliser, et puis va faire une surinfection massive à un champignon, par exemple, à un aspergillus ou à Candida albicans, probablement du fait de cette délétion massive du système, des cellules du système immunitaire. Et c'est cette surinfection, en fait, qui va embrayer, si je puis dire, le processus et amener à l'aggravation finale. Et puis on voit de plus en plus chez les sujets qui ont fait un choc septique, qui ont survécu au choc septique à long terme, plusieurs mois, 6 mois, 1 an, des complications bizarres se mettre en place, des lymphomes, des choses qui font penser que peut-être le système immunitaire a été vraiment extrêmement secoué et altéré à cette occasion. Alors, bien entendu, à chaque fois qu'on observe des choses un petit peu nouvelles, on essaye très très vite dans ce domaine d'en tirer des conséquences utile sur le plan thérapeutique, Donc, et à l'heure actuelle, je ne sais honnêtement pas où en sont les essais cliniques, pas même s'ils ont commencé, mais des tentatives, par exemple, d'approche de la prévention de ce, à progression rapide et dramatique de la situation par l'utilisation d'inhibiteurs de caspase. Celui-ci, par exemple, dont on sait qu'il est bien toléré chez l'animal. Bon, quelque part, on sait qu'on joue avec le feu, parce qu'utiliser des inhibiteurs de caspase, ça veut dire qu'on va aussi probablement empêcher la mort de cellules qui devraient normalement mourir dans ces processus d'homéostasie. Donc on risque d'entraîner aussi des phénomènes de prolifération, mais si par hasard les essais cliniques donnaient des résultats intéressants, on pourrait penser que pour quelques jours, c'est quelque chose qui est quand même envisageable. Maintenant, tout ça est vraiment un domaine qui bouge très très rapidement. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent. Finalement, sans être trop dogmatique, je dirais que pour nous, dans notre monde, qui s'est intéressé beaucoup, qui s'est intéressé aux maladies infectieuses et à leur physiopathologie, on s'est beaucoup intéressé aux choses, disons, germe par germe. On s'est intéressé aux salmonelles, on s'est intéressé aux Escherichia coli, on s'est intéressé aux staphylocoques. Mais il y a eu finalement en fait assez peu de groupes qui, à un niveau très, très fondamental, ont essayé de voir les choses de façon transversale et essayé de tirer les éléments communs de ce qui peut survenir, quelle que soit la nature de l'agent infectieux, c'est-à-dire en particulier ces situations de sepsis grave et de choc septique. Et je pense que maintenant, le domaine scientifique et les outils dont on dispose sont devenus suffisamment riches avec maintenant la génomique, y compris humaine, fonctionnelle, la protéomique. On peut commencer à reprendre la problématique de trouver des biomarqueurs qui vont permettre de déterminer relativement précocement la survenue d'un état septique grave. Et puis, on peut commencer à réfléchir, ayant plus d'éléments sous la main, à des approches thérapeutiques peut-être un petit peu plus innovantes que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, faute finalement d'avoir les moyens de le faire. Donc je finis sur cette diapo, mais sans vraiment vous la commenter, parce que je pense que je vous en ai déjà suffisamment dit sur le sujet. Bah, c'est mon dernier cours de l'année, à part ce mini-symposium du mois d'avril sur l'imagerie des processus infectieux in vitro et in vivo, qui sera en anglais. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés et qui ne sentiront pas trop mal de passer 24 heures ou en tout cas 12 heures dans un meeting en anglais, vous êtes bien entendu les bienvenus. Ce sera à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. J'ai essayé de mettre en place un certain nombre d'orateurs qui vont vraiment nous présenter le nec plus ultra de la façon dont on peut imager au niveau cellulaire ou tissulaire la progression d'un processus infectieux. Donc, malgré tout, ça reste le dernier cours formel sous cette forme. Donc, je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité, même les jours de grève. Et puis, si vous avez quelques questions sur ce sujet qui, je le conçois, est relativement complexe, elles sont les bienvenues. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre avec beaucoup plus de détails que ce que je vous ai dit. L'année prochaine, si vous n'êtes pas dégoûté des maladies infectieuses et de la microbiologie, je suis en train de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire et je pense que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit un petit peu plus centré sur la symbiose, sur les mécanismes symbiotiques, aller beaucoup plus en profondeur dans la compréhension de cette interface entre, disons, l'homme et les microbes, mais bien entendu à l'occasion de développements qu'on peut faire avec des modèles expérimentaux animaux. Et puis peut-être aussi réfléchir un peu plus à tout ce qui concerne, au-delà de la symbiose, les mécanismes d'infection chronique, d'infection même permanente, par exemple des herpès virus qui restent dans notre organisme toute la vie, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a pas mal de choses, y compris jusqu'à essayer de comprendre les mécanismes de fond du vieillissement du système immunitaire et de la fragilisation des personnes âgées aux infections qui peuvent rentrer dans ce concept un petit peu global. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça. Je pense que je vais essayer de centrer l'enseignement de l'année prochaine sur ces domaines-là. Donc voilà, je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.